rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec la Seconde Guerre mondiale entre déni et silenciation. Épisode 7. Joseph Weissmann, le témoin qui veille à ce que l'histoire ne se renouvelle pas. J'ai rencontré Joseph Weissmann le 13 mai 2026. Mais avant de vous faire entendre sa voix et ce qu'il a à nous dire, je vais vous lire un petit peu de sa biographie qu'on trouve sur le site d'Yves Moreau, Les Déportés de la Sarthe. Joseph Weissmann, il est né le 19 juin 1931 à Paris, fils de Shmuel Weissmann et de Sura, frère de Charlotte et Rachel. La famille habitait 54 rue des Abbesses à Paris. Ils sont tous arrêtés lors de la rafle du Vel d'Yves du 16 juillet 1942, puis emmené au camp de Beaune-la-Rolande. Il réussit à s'échapper du camp avec son ami Jo. Il passe le reste de la guerre dans une ferme du Loiret, où il doit travailler dur. Son père Shmuel, sa mère Sura et sa sœur Charlotte sont déportés à Auschwitz par le convoi numéro 16, parti de Beaune-la-Rolande le 7 août 1942. Sa sœur Rachel est déportée à Auschwitz par le convoi numéro 22, parti de Beaune-la-Rolande le 21 août 1942. Il est recensé par Lucienne Clément de Lépine en novembre 1943 et confié avec Léa et Judith Cohen à Madame Grignier, habitant à Pont de Gênes, en Sarthe. Voici ce qu'il raconte de cette expérience dans « Après la rafle », publié aux éditions Michel Lafon en 2011. Madame Clément est une petite femme d'une cinquantaine d'années. Elle voyage beaucoup dans le cadre de sa mission, trouver des gens un peu partout en France, mais de préférence à bonne distance de Paris, qui acceptent de prendre avec eux, dans leur maison, des enfants juifs. Elle les interroge sur leur motivation, elle juge de leur capacité d'accueil, de leur affection éventuelle. En ces trois domaines, elle doit bien se contenter de peu. Et si elle sent qu'elle peut leur accorder sa confiance, elle leur amène des enfants. Ce matin, je prends le train avec Madame Clément. Nous partons dans la Sarthe avec deux filles, Léa Cohen, 10 ans, et Judith, 12 ans à peine. Les deux frangines ne se quittent pas. La plus jeune s'accroche à son aînée comme à une bouée de sauvetage. Elle ne parle pas beaucoup, c'est une petite chose perdue dans un pays en guerre. Judith prend sur elle pour rassurer Léa. Elle traîne son fardeau avec tendresse, consciente que c'est une veine malgré tout de ne pas avoir été séparée de sa sœur cadette. Elles non plus ne savent pas où sont leurs parents, d'autant plus qu'ils se sont quittés quelques années plus tôt. La mère a gardé les fils. Judith et Léa ne parlent que de leur père qui s'est occupé d'elles tout seul depuis le début de la guerre. « Il a été arrêté, » disent-elles. Le mot n'a aucun sens pour elles, il leur fait juste très peur. Elles n'ont rien vu des wagons à bestiaux qui transportent les Juifs à Pitchipoy. À force d'assister aux rafles dans les orphelinats, à force d'entendre les autres enfants raconter leur histoire, l'arrestation de leurs parents, de leurs grands frères, que l'on traite comme des hommes, même s'ils n'ont pas 18 ans, j'ai acquis une certitude. Il faut désormais cacher à tout le monde que nous sommes juifs, et cela par tous les moyens. Avec les prénoms qu'on se trimballe, ça ne va pas être facile. Je profite d'un moment où nous sommes seuls tous les trois dans le train pour nous créer de nouvelles identités. Écoutez-moi les filles, à partir de maintenant, nous ne sommes plus Joseph, Judith et Léa, ça fait trop juif. Toi Léa, puisque ton prénom commence par un L, tu seras désormais Liliane. Toi Judith, mettons que tu t'appelleras Jacqueline. Moi ce sera René, d'accord? Et pourquoi tu ne gardes pas ton initiale, toi? Me demande très justement Judith. Pourquoi pas Jean-Jacques? Parce que c'est comme ça. Elles se regardent toutes les deux avec l'air de dire qu'elles sont tombées sur un drôle de zozo pour partager leur cavale. Un peu plus loin, il arrive dans sa nouvelle maison. À notre tour, nous pénétrons dans notre nouvelle maison. Elle ne comporte qu'une seule pièce, assez vaste toutefois, pour contenir une table et plusieurs lits. Derrière, on devine un coin cuisine, c'est tout. D'emblée, nous sentons que nous ne sommes pas les bienvenus. Avec son physique ingrat, sa voix sifflante et rocailleuse et son patois des plus rustiques, la maîtresse des lieux a tout d'une sorcière d'un autre temps. J'ai soudain l'impression d'avoir fait un bond 100 ans en arrière. Est-ce que cette femme, au moins, cache un cœur dans cette carcasse? Dès les premiers jours que nous passons avec elle, je peux me rendre compte que non, au contraire. À l'école, en classe de 7e, j'ai étudié quelques passages des Misérables de Victor Hugo. Eh bien voilà. Judith et moi, nous avons été envoyés là pour inventer la suite de l'histoire. Elle se passe au fin fond de la Sarthe, en 1943, pendant que les Allemands bombardent le sud de la France et traitent comme des animaux les Juifs, adultes, vieillards et enfants. Je m'arrête là, je pourrais continuer la lecture d'Après la rafle longtemps. Mais place à ce que Joseph Weissmann veut nous dire.
Je suis Joseph Weissmann, né à Paris le 19 juin 1931. Et j'ai été arrêté avec mes parents et mes deux sœurs par la police française le 16 juillet 1942. Conduit au Veldiv, puis au camp de concentration de Bon-de-la-Rolande, dans le Loiret. Ensuite, destination au camp d'extermination d'Auschwitz, Pologne. Mes parents et mes deux sœurs, assassinés dès leur arrivée, leur corps brûlé au four crématoire. Moi, j'ai 11 ans, j'ai réussi à m'évader. À partir de là, mon intervention est la suivante. En déclenchant cette rafle, baptisée opération Vent Printanier, l'État français commettait l'irréparable, en participant à la pire des choses qui soit, le crime contre l'humanité, le génocide, la Shoah en hébreu. Le Larousse dit « génocide, extermination systématique d'un groupe humain, national, ethnique ou religieux ». Durant l'occupation allemande, ce 16 juillet 1942 fut la journée la plus dramatique pour les Juifs. Toutes les administrations apportent leur concours, douane, police, gendarmerie, etc. Le thème est « Il faut se débarrasser des Juifs en bloc et ne pas garder de petits ». Quelqu'un exprime ce que tous ressentent. « Je suis blessé en tant que Français » de l'insulte que l'on me fait en tant que juif. Dès l'aube, les policiers cirent du sommeil des familles hébétées. Des milliers de groupes circulent dans Paris. Ils sont composés de 7 à 8 personnes, 2 policiers et 5 à 6 civils, hommes, femmes et enfants portant l'étoile jaune. 4500 policiers français par équipe de 2, l'un en tenue, l'autre en civil, sont chargés de l'opération. Quelqu'un demande « Qu'est-ce qu'ils ont fait ?»« Rien, ils sont juifs, ils n'ont plus le droit de vivre. » »« Et les enfants non plus ?»« Oui, les enfants non plus. » Le bilan final de la rafle du 16 juillet 1942 à Paris et la région parisienne est de 13 152 arrestations, dont 4 151 enfants. Tout ce monde est rassemblé au Vélodrome d'hiver, aujourd'hui disparu. Les autobus parisiens se chargent du transport. Les conditions d'hygiène et d'internement sont insupportables. Une clameur de fond incessante, cris de femmes et d'enfants qui hurlent jour et nuit. La situation sanitaire se dégrade rapidement. Les malades sont évacués sur des brancards. Dans un acte de désespoir, une femme se jette du haut des gradins ce qui provoque une tension extrême, terriblement angoissante. Cet enfermement intolérable va durer du 16 au 19 juillet. Il fait une chaleur torride, le manque de boissons et de nourriture se fait cruellement sentir, car rien ne sera distribué au cours de ces 4 jours. Puis le 16 juillet, le Veldiv est vidé de tous ses internés. La traversée de Paris se fait en autobus vers la gare d'Austerlitz. Ce sera alors un interminable voyage en wagon à bestiaux surchauffés, laissant passer un minimum d'air et de lumière. Chevaux en long, 8 hommes 40. Nous sommes peut-être 200 par wagon, avec une tinette par wagon. Parti le matin, le train n'arrivera que le soir après avoir parcouru 100 kilomètres. Un convoi se dirige vers Pithiviers, un autre vers Beaune-la-Rolande, 2 camps d'internement situés dans le Loiret. Arrivé à la gare de Beaune-la-Rolande, un long convoi d'hommes, de femmes, d'enfants et de vieillards s'étire interminablement et traverse le village pour se rendre au camp. Après quelques semaines d'internement, arrive le jour de la déportation, dont le but est la solution finale. La dernière journée au camp de Beaune-la-Rolande fut la plus effrayante, la plus angoissante pour tous et surtout pour les enfants. Dès l'aube, chacun passe dans la baraque de fouille devant de jeunes miliciens qui doivent s'assurer et vérifier que personne n'a gardé de valeur en argent ou autre. Les montres, les bagues et autres bijoux sont retirés, les boucles d'oreilles sont brutalement arrachées avec le bout de l'oreille si ça ne va pas si vite. Malheur à ceux ou à celles qui ont caché quelque chose. Ils seront matraqués à tour de bras par les miliciens haineux. Nous sommes en rond dans la cour du camp depuis le lever du soleil qui monte jusqu'à devenir brûlant. Debout, sans boire, ni manger, ni faire nos besoins, pendant 10 à 12 heures, jusqu'à ce qu'en fin d'après-midi arrive dans le camp un groupe de soldats allemands en armes, accompagnés d'un officier de haut rang au vu de son uniforme rutilant. Ce sont les premiers Allemands que nous voyons dans le camp. Ils viennent dire au commandant du camp que Berlin n'a pas donné son accord pour que soient déportés les enfants, comme l'a décidé le gouvernement français. Les enfants retournent donc dans l'enceinte du camp, avec la promesse qu'ils rejoindront leurs parents rapidement. Cela sans doute pour éviter des réactions trop violente, incontrôlable. Cette opération terminée, arrive l'ordre de prendre le chemin de la gare. C'est alors que se déroulent des scènes insoutenables qui, aujourd'hui encore, j'ai peine à évoquer et que je pleure en les revoyant. Ces enfants, dont mes 2 sœurs, hurlent leur détresse, leur chagrin. Ce moment est d'une telle intensité que je ne trouve pas les mots pour la décrire. Et les mères qui se débattent, les pères et les grands-parents qui crient, les frères et les sœurs qui hurlent, car certains partent alors que d'autres restent. Et ce sont des milliers d'enfants, d'êtres humains qui, dans ce chaos apocalyptique, se débattent, hurle, il souffre. Comment décrire ce déchirement qui dure et qui n'en finit pas? Enfin, le convoi quitte le camp pour la gare et après l'enfer que nous venons de vivre, un silence de mort s'abat sur le camp. Silence assourdissant, oppressant, angoissant, insoutenable. Comme où ne reste que des enfants hébétés, épuisés, octant leur dernière larme et leur immense chagrin inconsolable. Plus de 11 000 enfants ont été déportés de France de 1942 à 1944 et assassinés à Auschwitz. À cet instant précis, comment ne pas être inondé d'une immense détresse à la pensée de ce train de la mort qui quitte la gare de Beaune-la-Rolande. Il va rouler 3 jours et 3 nuits dans des conditions inhumaines, emmenant ces milliers d'hommes, de femmes, d'enfants et ma propre famille vers une funeste destination. Détail de l'histoire, diront certains. 3 camps tristement célèbres en France, Drancy, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, où ont été internés des milliers d'enfants sans parents. Avant le film La Rafle, cette indescriptible tragédie de ces enfants abandonnés à eux-mêmes avait été peu évoquée. Peut-on imaginer spectacle plus déchirant que ces petits êtres hier encore dans la chaleur de l'amour familial et aujourd'hui devenus loques, encombrantes, sales et inutiles dont personne ne veut. Ces enfants qui n'ont pas encore vécu et dont l'extermination sera la seule délivrance. Il me faut rendre un vibrant hommage à la population française non juive, juste parmi les nations, et tout particulièrement sartoise, car par son courage et malgré une propagande anti-juive virulente appelant à la haine par tous les moyens de communication de l'époque, journaux, radio, cinéma, affiches, etc. De tous les pays occupés par les nazis, c'est en France qu'il y a eu le moins de déportés, à l'exception du Danemark et de la Norvège, dont la densité de population juive était très faible. Et ce, malgré le gouvernement de Vichy, complice de l'occupant nazi. Si seulement, entre guillemets, 75 721 juifs ont été arrêtés, déportés de France, soit 25% de la population juive, cela signifie que 75% a été sauvé et n'aurait pu l'être sans l'aide active de la population française non juive. Il faut aussi souligner avec insistance la participation active de hauts dignitaires de l'Église, notamment Toulouse, Montauban et Lyon, le travail magnifique de congrégations religieuses qui ont sauvé des milliers d'enfants juifs. J'exprime au passage ma reconnaissance émue aux 2 gendarmes qui nous ont aidés au cours de notre évasion, mon copain Jo et moi. Dans l'uniforme détesté, il y avait aussi 2 résistants, 2 hommes de cœur. En France, 75 721 juifs ont été arrêtés et pour la plupart déportés directement à Auschwitz en Pologne. Un voyage interminable, inhumain, puisqu'à l'arrivée, à l'ouverture des wagons plombés, de nombreuses personnes mortes d'épuisement s'écroulent sur les quais, surtout des enfants. 43 441 déportés français sont ainsi gazés dès leur arrivée. À peine arrivés, vite on se déshabille, vite on s'entasse dans des salles de douche qui sont en réalité des chambres à gaz. C'est l'asphyxie, l'agonie, puis le four crématoire. Pouvez-vous imaginer un instant ces milliers de corps d'hommes, de femmes et d'enfants, asphyxiés, sans vie, ces amas de corps, de cadavres, enchevêtrés, insoutenables images. Les autres vont mourir à plus ou moins brève échéance, de faim, de froid, d'épuisement, de maladie et de soi-disant conséquences d'expériences annoncé comme étant médical. C'est la fin. Il n'y aura que 2564 survivants, dont 25 que la rafle du Veldiv. Aucun enfant arrêté lors de la rafle et déporté n'est revenu. On peut considérer que ce sont les enfants qui ont payé le plus lourd tribut, qu'ils aient été assassinés, torturés ou cachés. En tout, 86 convois quittent le sol de France. Le premier, le 27 mars 1941. Le dernier, le 22 août 1944 de Clermont-Ferrand, alors qu'une partie de la France est déjà libérée. 6 millions d'êtres humains, dont 1,5 million d'enfants, seront exterminés par les nazis lors de cette guerre parce qu'ils étaient juifs. Le pire crime contre l'humanité qui n'ait jamais existé. De cette tragédie, il appartient aux historiens de faire leur travail et aux survivants de faire le leur, c'est-à-dire de témoigner. Nous, les victimes, nous n'oublierons pas et ne pardonnerons jamais. La République française a repris ses droits. Le gouvernement et toutes les administrations réalisent ensemble un travail remarquable, notamment l'éducation nationale, pour informer et éduquer. Leur but est plus jamais ça. Nous sommes de nouveau régis par ce qui fait notre fierté à nous Français, liberté, égalité, fraternité. Certes, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie existent toujours, alors que les êtres de bonne volonté veulent la même chose. Les religieux disent « aimez-vous les uns les autres », les laïcs prônent la tolérance. Même combat, même idéal. Enrichissons-nous de la culture des autres, ne la rejetons pas. Au nom de tous les hommes de bonne volonté, laïcs, religieux, athées, chrétiens, musulmans, juifs et tous les autres, épris de justice et d'équité, œuvrons dans cette voie. Soyons vigilants, ne baissons pas les bras. Les événements actuels nous prouvent que le ventre de la bête immonde est toujours plus. Puisse à notre pays que j'aime et que je respecte ne plus jamais connaître une telle infamie, et comme je le dis aux élèves devant lesquels je témoigne, à un moment donné de votre vie, n'acceptez pas l'inacceptable. Vive la République, vive la France.
Merci. Il n'y a rien à ajouter, je vous remercie beaucoup.
Merci, cher Joseph Weissmann, pour votre accueil. Je sais combien c'est difficile pour vous à chaque fois de parler, mais je sais aussi à quel point vous y tenez. C'était ma rencontre avec Joseph Weissmann, le témoin qui veille à ce que l'histoire ne se renouvelle pas.